France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
En 1735, la toute première expédition scientifique française s'élançait de La Rochelle en direction de l'Amérique du Sud pour déterminer la forme du globe terrestre et ainsi mettre fin à un vieux débat opposant Newton à Descartes. Pendant près de 8 ans, cette équipe scientifique emmenée par 3 académiciens sillonne les routes et les sommets du vice-royaume du Pérou pour effectuer ses mesures et réaliser au passage quelques belles découvertes. Science Chrono emboîte aujourd'hui le pas de ces savants au tempérament houleux et tenace pour qui la science, c'était le Pérou. Et pour parler de cette expédition, nous avons aujourd'hui le plaisir d'être en ligne avec Bernard Jiménez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, voyageur et photographe, auteur du très beau livre « Les conquistadors du savoir, une fabuleuse épopée scientifique en Amérique du Sud, 1735-1743 », paru aux éditions Glénat. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cette expédition un peu rocambolesque qui a ouvert la voie à d'autres expéditions scientifiques restées peut-être plus célèbres. Alors avant d'embarquer à bord de ce navire en direction de l'Équateur et du Pérou, je vous annonce le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous irons au Liban, sur le site de Byblos. Et nous vous parlerons de la découverte en 2018 d'une nécropole très impressionnante qu'on n'imaginait pas trouver là. On parlera bien sûr des conditions de cette découverte et on en profitera pour faire le portrait de cette cité du Levant occupée en continu depuis des millénaires. Mais avant cela, retour à notre histoire des sciences. La Terre a-t-elle la forme d'un citron ou d'une mandarine? La question, on va le voir, n'est pas si enfantine que ça. Au contraire, elle pose la question de l'aplatissement ou non de la Terre au pôle, et ça a de lourdes conséquences, notamment sur la façon dont on dessine les cartes. C'est donc à cette interrogation qu'a cherché à répondre la toute première expédition scientifique française envoyée au vice-royaume du Pérou en 1735 par la monarchie française. On va suivre ensemble l'itinéraire tracé, entre autres, par Lacondamine, Gaudin, Bouguer, ou encore Jussieu. Et une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas démarrer cette émission illico avec notre archive, mais nous allons poser les bases de notre histoire. Alors Bernard Jiménez, j'évoquais cette question de la forme de la Terre, citron ou mandarine. Quelle était la nature du débat, qui n'était pas un débat maraîcher avant l'expédition, et quels étaient les arguments en présence?
Oui, donc on se replace au début des années 1730. Il y a, comme vous l'avez dit, cette polémique entre les partisans et les opposants de Newton, qui soutiennent que la Terre est aplatie au pôle et renflée à l'équateur. Les opposants sont Cassini, la dynastie d'astronomes, et Descartes, qui prétendent le contraire, ayant fait des mesures de méridiens dans le sud de la France, dans le nord, et arrivant à la conclusion inverse. Mais on avait comme données préalables une mesure qui avait été faite par Richier, un astronome français, à Cayenne, une mesure avec le pendule à seconde, et il s'était aperçu qu'il était plus lent au niveau de l'équateur, parce que, en déduisant Newton, le centre de la Terre était plus loin. Donc il fallait absolument, pour connaître la véritable forme de la Terre, qui était quelque chose qui était très important pour les voyages sur mer notamment, pour les navires militaires, pour la marine, mais aussi pour la marine marchande, il fallait absolument trancher le débat et il y avait des discussions qui étaient très tendues à l'Académie des sciences jusqu'en décembre 1733 où Louis Gaudin a évoqué à l'Académie des sciences donc l'utilité d'un voyage sur l'équateur. L'idée était d'aller mesurer sous l'équateur même la longueur d'un degré de méridien et de la comparer avec la même mesure que l'on pourrait faire à Paris, voire plus au nord en Europe.
Vous évoquez, Bernard Jiménez, la figure de Louis Gaudin, donc jeune mathématicien et savant très brillant de cette époque, académicien, qui va avoir le soutien du comte de Maurepas, ministre de la Marine de Louis XV, qui va décider de le suivre dans cette idée d'envoyer des scientifiques à l'autre bout du monde. Faut le dire, il faut le rappeler, à cette époque, il n'y avait pas encore d'expédition purement scientifique.
Non, c'est vraiment la première expédition scientifique organisée par un pays pour résoudre un problème scientifique. C'est vraiment la toute première, et bien sûr, elle sera précurseur. d'autres expéditions, notamment l'expédition de découverte, auxquelles on va adjoindre des scientifiques.
Alors on évoque cette expédition qui va rejoindre l'Équateur. Il faut être honnête, Bernard Jiménez, cette expédition elle est en réalité double. On envoie deux équipes d'une certaine façon, l'une vers le pôle Nord, l'autre vers l'Équateur. Il faut parler quand même de cette expédition dans le grand froid qui partira un an après celle de la Condamine vers le Pérou.
Voilà, alors quand l'expédition La Condamine part pour le Pérou, ils ne savent pas qu'il y aura une autre expédition qui sera envoyée au niveau du cercle polaire. Ils ne la prendront qu'une fois sur place, une fois au Pérou, et c'est quelque chose de bien étrange qui n'a pas encore été bien élucidé. Alors est-ce que l'idée était déjà en tête de certains des académiciens ? On ne sait pas en tout cas. Quand Gaudin, Bouguer et La Condamine sont partis, ils ne savaient pas qu'il y aurait une autre expédition qui allait partir au niveau du cercle polaire. Mais en tout cas, l'idée était excellente. Comparer un degré de méridien au niveau de l'Équateur, au niveau du cercle polaire, c'était bien mieux que de faire la comparaison avec le degré de méridien à Paris, puisque Paris est à environ 48 degrés de latitude nord, alors que le cercle polaire est à 66 degrés.
Ça avait plus de sens et c'était plus représentatif. On parle donc de cette mesure réalisée à l'Équateur. Le Pérou, l'Amérique latine, enfin le nord de l'Amérique latine, c'est pas le plus proche. Pourquoi est-ce que cet équipage s'est embarqué en direction du Pérou, qui plus est, qui était espagnol à l'époque, plutôt que, je sais pas moi, en Afrique, ou alors là, si on envisage des distances plus lointaines, Bornéo, Sumatra, pourquoi avoir choisi cette partie du monde où passe l'Équateur ?
Alors, la ligne équatoriale, elle coupe surtout des océans. Et il n'y a que 20% de terres émergées qui sont sous l'Équateur. Effectivement, c'est le centre de l'Afrique, c'est Sumatra, Bornéo, les îles du Pacifique, mais ce sont des terres insalubres et réputées plutôt sauvages, entre guillemets. Donc l'Amérique du Sud paraissait plus accessible, plus sûre, et puis surtout, le vice-royaume du Pérou, de par le pacte de famille qui unissait la monarchie espagnole et la monarchie française, Philippe V, le roi d'Espagne, était le petit-fils de Louis XIV et Louis XV, et le neveu de Philippe V. Donc, on imagine que ce sera plus facile. Et effectivement, il a fallu discuter avec les Espagnols qui se doutaient bien que si des scientifiques français allaient en Amérique du Sud, sur leur territoire, ils allaient aussi plus ou moins faire un petit peu d'espionnage. Mais ils arrivent à se mettre d'accord et les Espagnols, la royauté espagnole, impose tout de même la présence de deux officiers espagnols, Antonio de Ulloa et Georges Juan, qui vont se joindre à l'expédition française. Et du coup, c'est la première expédition scientifique, mais aussi, c'est aussi la première expédition scientifique internationale.
Internationale. Alors là, oui, ces officiers sont quand même là pour surveiller un petit peu que les Français n'aillent pas trop fouiner dans les recoins de ce vice-royaume du Pérou. Quand on parle de vice-royaume du Pérou, Bernard Jiménez, ça correspond à quelle réalité géographique d'aujourd'hui pour qu'on se situe un petit peu ?
Alors, c'est essentiellement l'Équateur et le Pérou d'aujourd'hui, avec quelques petites parties de territoire de Bolivie, une petite partie de Colombie, mais en gros, c'est la zone qui est centrée sur l'Équateur actuel.
Et on va entendre ces noms de villes d'Équateur et du Pérou tout à l'heure. Parlons de cet équipage qui part de La Rochelle à bord du Portefeuille, un navire de type flûte. J'ai découvert qu'il y avait des navires qui s'appelaient des flûtes. Voilà, oui. Qui part de La Rochelle en 1735. Décrivez-nous cet itinéraire d'un an jusqu'à l'Amérique latine, comment ça se passe et quelles sont leurs premières étapes dans le Nouveau Monde.
Alors, ils partent de La Rochelle donc le 16 mai 1735. Il faut imaginer cette flûte, ce navire chargé avec ses passagers, bien sûr, mais aussi de nombreux instruments scientifiques. Chaque académicien a ses domestiques. Tout cela, il faut l'embarquer sur le navire avec d'autres passagers. Ils vont aller jusqu'à la Martinique. Et là, c'est le premier contact avec les tropiques et surtout avec la flore tropicale. Et Joseph de Jussieu, qui était le botaniste de l'expédition, va lui enfin être au contact de cette botanique qu'il avait étudiée au Jardin du Roi, à l'actuel Jardin des Plantes. Et il va pouvoir commencer à herboriser en faisant notamment l'ascension de la montagne Pelée.
Puisque vous parlez de Joseph Jussieu, je me dis que ce serait intéressant quand même de présenter cet équipage, puisque là vous parliez aussi des académiciens qui embarquaient avec leurs domestiques. Est-ce qu'on peut donner un petit peu ce 11 de départ qui faisait cette expédition et qui étaient finalement les savants en présence et quels étaient leurs métiers, leurs spécialités?
Alors, les trois académiciens étaient Louis Gaudin, Pierre Bouguer et Charles-Marie de la Condamine. Louis Gaudin était né en 1704 à Paris. C'était un prodige en mathématiques et en astronomie. Il avait été admis à l'Académie des sciences très jeune, à 21 ans. Pierre Bouguer était né au Croisic en 1698. C'était un professeur d'hydrographie. Il avait succédé à son père à l'âge de 16 ans. Là aussi, à cette époque-là, on pouvait être professeur très, très jeune. Mais c'était vraiment quelqu'un de très, très doué en mathématiques, en physique, en hydrographie, en astronomie. Et puis enfin, Charles-Marie de la Condamine, lui, c'était le savant aventurier type, le savant des Lumières. C'était le fils d'un receveur général des finances. Il avait étudié au lycée Louis-le-Grand et il s'intéressait à tout. Il avait en plus le goût du voyage. Il avait même embarqué sur le Géographe, sur un navire de Duguay-Trouin, pour aller cartographier les côtes d'Afrique du Nord et le Levant. Donc lui, il avait vraiment envie de participer à ce voyage, parce qu'il y avait l'attrait du voyage, l'attrait de l'Amérique du Sud. Mais tout cela était associé, bien sûr, à des connaissances très pointues en mathématiques et en astronomie. On a donc parlé de Joseph de Jussieu, qui appartient à la fameuse dynastie des Jussieu. C'est le frère d'Antoine et de Bernard, qui était professeur de botanique au Jardin du Roi. Et il est un peu taciturne, il avait du mal à trouver sa voie. Et on pense que ce sont ses frères qui ont conseillé à l'Académie de l'envoyer au Pérou pour justement inventorier toute cette flore d'Amérique du Sud, puisque il y avait déjà eu des botanistes qui avaient été en Amérique du Sud, mais ils étaient restés sur les côtes, ils n'avaient pas été à l'intérieur du territoire, et donc ce sera vraiment, vraiment important d'explorer l'intérieur du territoire d'un point de vue botanique. Alors c'était aussi un médecin, puisque à cette époque-là, la médecine était inséparable des études de botanique. Il fallait un médecin à cette expédition. Alors lui, en plus, il avait une mission nouvelle. La mission générique, je dirais, c'était recueillir, décrire les plantes nouvelles, donc faire des herbiers, les envoyer au Jardin du Roi, les faire dessiner ou les dessiner. Mais c'était aussi découvrir l'arbre à quinquina, puisqu'on utilisait en Europe l'écorce de cet arbre comme fébrifuge, et puis aussi contre le paludisme ou la malaria. Et on utilisait l'écorce, mais on ne connaissait pas l'arbre. Donc il fallait le retrouver, et il fallait l'étudier, le décrire. On a parlé tout à l'heure donc de ces deux officiers espagnols, Antonio de Ulloa et Jorge Juan, qui vont se joindre à l'expédition. Alors eux, ce sont des officiers de marine espagnole.
Des militaires
qui ont été formés à Cadix, qui avaient de bonnes bases en mathématiques et en astronomie, et qui vont beaucoup apprendre au contact des académiciens français. Pour compléter l'expédition, il y avait un chirurgien, dont on reparlera plus tard.
Bien sûr, Jean Seigneurgue, oui.
Voilà, un ingénieur, Jean-Joseph Verguin, qui était né à Toulon. Un mécanicien, horloger, un personnage là aussi très très important pour la réussite de cette expédition, puisqu'ils emportaient des instruments scientifiques qui étaient très fragiles, et il fallait les entretenir, il fallait les maintenir, éventuellement les copier pour en faire d'autres, donc il était vraiment très très utile, très important pour l'expédition.
Donc ça, c'est Théodore Hugo, pour le nommer.
Voilà, Théodore Hugo, pardon. Et il y avait aussi le peintre Jean-Louis de Morinville, qui lui était chargé de dessiner les cartes, les plans, et aussi les spécimens d'histoire naturelle. Donc il travaillera souvent avec Joseph de Jussieu. Et puis il y avait aussi ce que la Condamine appelle les aides arpenteurs, qui sont Jacques Couplet et Jean Gaudin, qui eux vont aider les académiciens sur le terrain pour leurs mesures.
Voilà, donc ça c'est l'équipage quasiment au complet, parce qu'il y a bien sûr tout le monde qui accompagne ces savants et ces techniciens, des domestiques. On verra aussi que sur place il y aura pas mal d'esclaves, ou en tout cas d'indigènes, qui vont les accompagner dans leurs ascensions et dans leurs prises de mesures. Je le disais tout à l'heure, la traversée dure longtemps, jusqu'à l'Amérique latine. Ça leur prend un an de voyage jusqu'à Carthagène des Indes, puis il faut passer l'isthme du Panama et descendre vers l'Équateur et le Pérou. Vous l'attendiez avec impatience, j'en suis sûr. Je parle de l'archive du jour, alors on va y venir justement. Il s'agit d'un extrait de l'émission « Les grands noms de la géographie » diffusée sur l'ORTF le 13 octobre 1972. Elle est consacrée à cette expédition et l'émission de radio en question avait imaginé le reportage d'un journaliste inventé pour l'occasion. Il rencontrait Charles-Marie de la Condamine et Pierre Bouguer en pleine séance de mesure et ça n'avait pas l'air si simple.
La tente se trouve sur une crête sablonneuse, si étroite qu'à peine un sentier passe derrière. Tout alentour est escarpé. Nous nous dirigeons vers l'extrémité de cette crête.
Presque tous les matins, nous nous réveillons sous la neige. Nous débarrassons notre toit, le soleil fait le reste.
Vraiment, nous dominons tout le pays. Le signal qui se trouve en haut de la crête est une sorte de pyramide formée de 3 ou 4 longues tiges d'aloès réunies au sommet. Une natte peinte à la chaux recouvre la partie supérieure, ce qui a l'avantage à la fois d'être aisément repérable et de servir d'abri pour le quart de cercle.
Et le désavantage de donner une terrible prise au vent.
Monsieur Bouguer se place sous la pyramide, derrière son quart de cercle, et commence d'inspecter la vallée.
Une des grandes difficultés, c'est que chaque signal doit se voir de plusieurs endroits en même temps.
Ah.
Par exemple, celui de Pampa Barra, que Monsieur Bouguer est en train de chercher, se voit encore de 2 autres points.
Grand Dieu, la Condamine, il a encore disparu.
Et cette fois, ce sont les Indiens.
Les Indiens?
Oui, ils viennent la nuit enlever les cordes et les piquets.
Ah.
Le temps de remonter des matériaux, encore 1 ou 2 semaines de perdu.
Il faut le reconstruire avec les pierres des ruines de la forteresse Inca. Au moins, ça durera.
Et quand ce sera prêt, le brouillard s'en mêlera. Savez-vous, monsieur le Parisien, que nous sommes restés les 3 premières semaines ici sans pouvoir prendre nos angles, parce qu'il était impossible de voir un signal sur la chaîne, en face, là-bas, de l'autre côté de la vallée, vers le sud. La pluie, le brouillard, la neige, on ne distinguait rien. Quand le temps s'est levé, il a fallu déplacer 2 fois le signal. Il y avait toujours quelque chose qui le masquait. Après, l'orage l'a enlevé. Le temps se remet au beau, ce sont les pâtres indiens. Et quand le signal est refait, hop, le temps se recouvre. Pamba Barra, voilà 7 fois qu'il faut le refaire. Oh, c'est éprouvant pour les nerfs, vous pouvez m'en croire.
C'est éprouvant pour les nerfs, vous pouvez m'en croire. Bernard Jiménez, là, alors c'est vraiment une espèce de docu-fiction réalisée dans les années 70, mais on n'est pas très loin de la réalité, notamment du côté du caractère de chien qu'avaient certains des protagonistes de cette expédition, et du côté de la difficulté, surtout, de prendre des mesures sur les hauteurs des contreforts des Andes au nord de l'Amérique latine. Ça posait problème, alors... Déjà, il va falloir parler de la technique de mesure pour comment on mesure un bout du méridien et pourquoi c'était difficile à cet endroit du monde.
Alors, les mesures, en fait, vont être réalisées dans le couloir interandin qu'il y a entre la ville de Quito et la ville de Cuenca, donc au centre de l'équateur, ce que Humboldt a appelé l'avenue des volcans. Puisque donc on a un haut plateau central qui est autour de 2800 mètres d'altitude et de part et d'autre des volcans, des sommets qui vont jusqu'à 6000 mètres avec le Chimborazo ou le Cotopaxi et la mesure qu'on appelle la triangulation va s'effectuer dans ce couloir interandin en prenant des points dans la vallée et sur les sommets. Donc l'archive décrit très très bien les conditions de travail qu'avaient les astronomes, on s'y croirait. Il manque que le sifflement du vent, mais on imagine le froid, on imagine la difficulté liée à la météo, avec notamment le brouillard. Ils avaient plusieurs signaux tout au long de cette ligne de mesure, et sur un des signaux, ils ont attendu pendant 3 semaines que le ciel se dégage pour pouvoir faire leurs mesures.
Et on entendait aussi, je parlais de ce caractère parfois difficile de certains des protagonistes. Il y a eu pas mal de tensions aussi pendant cette expédition et pendant cette expédition scientifique qui a cherché à établir finalement la forme de la Terre.
Oui, alors le chef de l'expédition qui avait été désigné parce qu'il avait été nommé académicien le premier était Louis Godin. Mais la Condamine et Bouguer n'acceptaient pas que ce soit Godin, qui en plus, lui, ne savait pas diriger une équipe, manager, on dirait aujourd'hui, diriger une équipe. Et il y a eu des tensions en permanence, et si bien qu'à la fin de la mesure, Godin mesurait de son côté et Bouguer et la Condamine mesuraient de l'autre. Donc ils vont rentrer en ordre dispersé, mais on n'aura jamais les mesures finales de Godin.
On parle de cette expédition au Pérou. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que pendant ce temps-là, pendant que eux on va le dire de façon un peu familière, ils galèrent vraiment beaucoup au nord de l'Amérique latine. Pendant ce temps-là, en Laponie, Maupertuis, lui, il réalise des mesures propres, rapides et efficaces et revient un an après être parti. Et finalement, c'est Maupertuis qui confirme que la Terre a une forme aplatie au pôle. Ça, ils l'ignorent quand ils sont à l'autre bout du monde, en Équateur et au Pérou?
Alors, ils reçoivent une lettre de Maupertuis, la Condamine reçoit une lettre de Maupertuis qui lui dit « Pendant que toi, tu as froid sur tes montagnes, nous, on va partir au nord, en Laponie, au niveau du cercle polaire, pour faire la même mesure. » Et la Condamine est vraiment déçue, contrite de recevoir ce courrier, parce qu'il n'était pas au courant, mais le résultat sera là, effectivement. Ils sont partis en mai 1736, et dès novembre 1737, la Condamine rend compte de son voyage à l'Académie, éprouve par la mesure qu'il a faite d'un degré de méridien sous le cercle polaire que la Terre est aplatie au niveau des pôles.
Alors ça c'est Maupertuis, hein, vous avez dit la Condamine, mais je crois que c'était Maupertuis, ouais, pas de problème. Si on revient du coup dans notre pérégrination, dans nos pérégrinations et dans ce voyage rocambolesque au nord de l'Amérique latine, à la suite de la Condamine et de Bouguer notamment, on entendait tout à l'heure dans le petit bout d'archives aussi qu'il parlait des Indiens qui parfois s'emparaient de repères qui leur servaient à faire leur triangulation. Quelles étaient les relations avec la population locale, parce que on imagine qu'il y a un petit choc, en tout cas on imagine ces savants en tenue, avec leurs perruques au milieu des montagnes, avec leurs instruments en cuivre qui se contorsionnent un petit peu dans tous les sens pour regarder le ciel, pour faire leurs mesures. Ça devait être étrange aussi pour les personnes qui habitaient là et qui voyaient débarquer ce genre d'équipage.
Oui, complètement. Ils étaient la population locale ne comprenait pas ce qu'ils faisaient. Les scientifiques essayaient de l'expliquer aux nobles qui rencontraient dans les villes, mais dans la campagne, c'était très difficile à expliquer. Alors les Indiens pensaient qu'ils cherchaient de l'or, d'autres pensaient qu'ils faisaient de l'espionnage pour le gouvernement français. Certains les voyaient observer les étoiles la nuit, se contorsionner sous les instruments. Ils pensaient qu'ils dialoguaient avec les esprits de la nuit. Et puis, une fois, il y a eu des pluies diluviennes, et bien sûr, c'était de la faute des Français. Mmh. Donc, il y avait vraiment une incompréhension vis-à-vis de ces savants qui étaient un peu des extraterrestres sur cette terre indienne.
Des extraterrestres à tel point qu'il y avait des fêtes masquées parfois où ils imitaient ces savants qui faisaient des figures un peu acrobatiques pour prendre leurs mesures. Et je crois que c'est intéressant parce que il y a des persistances en fait de ces fêtes masquées en Amérique latine qui continuent de représenter ces savants français du XVIIIe siècle.
C'est ça. Aujourd'hui, dans le village de Tarqui, donc tout à fait au sud de la ligne de mesure, près de Cuenca, au sud de Cuenca, il y a une fête où il y a des pantomimes et où on voit des Indiens donc, qui sont déguisés avec des habits européens du XVIIIe siècle, qui ont des instruments de mesure en carton et qui miment ce que faisaient ces savants. Donc cette mémoire de l'expédition, elle est toujours vivante au Pérou. Il y a d'ailleurs pas mal de sociétés qui s'appellent La Condamine. Il y a même un lycée franco-équatorien, La Condamine, à Quito. Donc la mémoire est toujours vive en Équateur.
Ça, c'est pour l'aspect positif. Mais pendant ce séjour, cette expédition des Français au XVIIIe siècle en Équateur et au Pérou, il y a eu aussi quand même des drames. Et il y a eu beaucoup des événements assez violents. On parlait de ce chirurgien Jean Seigniergue qui était a priori assez haut en couleur et qui a mal fini.
Oui, Seigniergue s'était approché trop près, je crois, d'une belle équatorienne. Il était chirurgien, donc il soignait les malades de la haute société des villes traversées par l'expédition. Et ça a été le coup à Cuenca. Donc là, il s'est approché de trop près de cette jeune fille. Et puis, il y a eu des disputes. Et cela a été suivi par une corrida lors d'une fête locale. Et il y a eu une pantomime au moment de la corrida, et il a voulu s'interposer. Il a pensé que son futur beau-père allait être attaqué. Il s'est interposé, et puis la foule en fait en a profité pour lui sauter dessus, et finalement il a été tué. Donc on a là vraiment un paroxysme de cette expédition. C'était fin août 1739 à Cuenca.
Et la tension, elle venait bien sûr de ce rapprochement entre le français et cette fille issue de la noblesse. Mais il y avait aussi leur athéisme qui déplaisait un peu aussi aux habitants du vice-royaume du Pérou. Voilà, il y avait ces idées des Lumières aussi qui se confrontaient à des fortes croyances religieuses locales. On parle, revenons aux sciences, Bernard Jiménez. Donc on a parlé de cette mesure qui a confirmé la forme aplatie au pôle de la Terre, cette mesure réalisée donc à l'équateur. Il n'y a pas que ce genre de découvertes géodésiques qui ont été réalisées. Vous parliez tout à l'heure de la quête de l'arbre à quinquina. On l'a trouvé. Et il y a eu plein d'autres découvertes botaniques.
Oui, c'est ça. Jussieu a vraiment exploré cette partie centrale de l'Amérique du Sud, depuis la côte jusqu'aux hautes montagnes. Ensuite, il est parti vers l'est, vers la Bolivie, où là, il a découvert des plantes nouvelles qu'il a décrites. Il a décrit la coca, ça a été un des premiers à décrire la coca. Et il a envoyé donc les dessins, il a envoyé les herbiers au Jardin du Roi. Et on a aujourd'hui au muséum ces planches d'herbier et ces dessins qui sont vraiment magnifiques. Mmh.
Vous évoquiez aussi tout à l'heure le fait, Bernard Jiménez, que le retour s'est fait en ordre dispersé, ce qui explique peut-être le fait que cette expédition soit pas forcément la plus connue, alors que c'est la première vraie expédition scientifique française. Qui rentre en premier? Voilà, est-ce que c'est la Condamine? Est-ce que c'est Bouguer qui va aller présenter les résultats de façon officielle devant les salons, devant l'académie?
Oui, c'est Bouguer qui va rentrer le premier. Il termine sa mesure astronomique pour vraiment avoir la longueur exacte du méridien mesuré. Et puis il rentre. Pour faire cette mesure, la Condamine était au sud et Bouguer était au nord. Ils visaient en même temps la même étoile et ainsi ils avaient la latitude du point sud et du point nord. Connaissant la distance entre les deux, ils en ont déduit la longueur du degré de méridien au niveau de l'équateur. Donc Bouguer va rentrer le premier et il va publier immédiatement les résultats de l'expédition. La Condamine, lui, qui était, comme on l'a dit au début, qui avait l'esprit voyageur, va décider de rentrer en descendant la rivière des Amazones.
Il prend le chemin le plus court.
Voilà, il prend le chemin le plus court, en tout cas le plus intéressant. Et c'était une descente sans fusil ni bréviaire. Jusqu'à présent, il y a eu des militaires ou des religieux, des missionnaires qui avaient descendu l'Amazone. Là, lui, il va la descendre avec l'esprit scientifique, c'est-à-dire qu'il va observer, il va mesurer, il va cartographier l'Amazone, il va observer les plantes, il va décrire les animaux.
Il va essayer aussi même de tordre le cou à certains mythes, comme le mythe des Amazones, le mythe de l'Eldorado. Ça, c'est des questions qui se posent et auxquelles il veut répondre en scientifique.
Tout à fait. Alors, dans les villages, il interroge sur la véracité ou pas de l'existence des Amazones. Et quand il va rentrer en France, notamment quand il va aller dans les salons pour raconter son voyage, il va parler des Amazones et il va pas vraiment éteindre complètement l'hypothèse. C'est-à-dire, il va dire que si les Amazones existent, eh bien, ça doit être en Amérique du Sud. Donc, il va surfer un peu, comme on dit aujourd'hui, sur ces mythes de l'Eldorado et des Amazones.
Il capitalise finalement plus sur cette expédition et cette descente de l'Amazone que sur cette expédition pour mesurer la forme de la Terre, puisque Bouguer l'a précédé. C'est ce qui va faire sa réussite, ce qui va faire aussi que Voltaire, par exemple, l'admirait, l'adulait et faisait d'une certaine façon sa promotion dans les salons. Jussieu, lui, c'est une fin un peu plus triste, un peu plus tragique, un peu plus humaine, on va dire, je sais pas comment dire.
Oui, c'est ça. Jussieu, finalement, ne va pas rentrer avec ses collègues. Il va être séquestré, entre guillemets, à Potosi, quand il est dans la région de Potosi, puisque le gouverneur va lui demander de rester sur place pour l'aider à améliorer la condition de vie des mineurs qui travaillaient dans les mines. Donc, il va inventer, il va améliorer les machines pour qu'il y ait moins de blessés, moins de morts dans les mines. Il va dessiner un pont qui avait été détruit. Ensuite, il va être autorisé à quitter le Potosi, mais il va tomber malade. Et finalement, jusque dans les années 1770, il va rester au Pérou. Et quand il rentrera épuisé, malade. Et il mourra très rapidement ensuite à Paris, dans la maison des Jussieu, rue des Bernardins.
Et une toute dernière question avant de finir, Bernard Jiménez, comment ça se fait finalement que cette première expédition scientifique française ne soit pas aussi connue que celle de la Pérouse ou d'autres, sur lesquelles vous avez travaillé également? Pourquoi finalement on la connaît si peu, cette expédition? On a gardé un peu vaguement le nom de la Condamine, mais ce n'est pas l'expédition la plus connue.
C'était vraiment une expédition scientifique, ce n'était pas une expédition de découverte, et je pense que c'est pour ça. Maupertuis, en plus, a répondu à la question « quelle est la véritable forme de la Terre ?» plutôt que la Condamine ou Bouguer. Ils sont rentrés en ordre dispersé, donc il y a eu des communications séparées. Et puis, la Condamine a aussi accaparé un peu l'attention avec son récit de sa descente de l'Amazone, et finalement pendant un moment c'est cette descente de l'Amazone qui a captivé l'attention du public en entretenant un brin de mystère à propos des Amazones et de l'Eldorado, et finalement il ne publiera son journal qu'en 1751.
Et malgré tout, cette expédition va faire des petits, puisque je crois qu'Alexander von Humboldt, le géographe savant allemand du 19e siècle, était très inspiré par cette exploration du nord de l'Amérique latine. Merci beaucoup à vous, Bernard Jiménez, de nous avoir conté cette histoire rocambolesque. Je rappelle le titre de votre livre, Les Conquistadors du Savoir, c'est paru aux éditions Glénat. Merci beaucoup.
Sol de los arenales regada en sangre del bravo Sayhuenque, grito que está volviendo en tu desbocado, potro pehuenche. Del cielo la honda noche se oye del viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver, aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén.
Quimei Neuquén par José Larralde dans Science Chrono sur France Culture. Après avoir abordé les côtes de l'océan Pacifique, on retourne à présent en mer Méditerranée. On part au Liban, il est l'heure de l'entretien archéologique.
Science Chrono. L'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Au Liban, le site archéologique de Byblos constitue un trésor archéologique fouillé régulièrement depuis le 19e siècle. En 2018, une découverte a fait l'effet d'un coup de tonnerre alors qu'on pensait avoir une représentation plutôt fidèle de la structure de cette ville peuplée en continu depuis des millénaires. Une véritable nécropole avec son réseau de cavités était mise au jour par les équipes d'archéologues à un endroit de la ville qu'on ne pensait pas destiné à abriter ce genre d'aménagement. Depuis, ce sont d'autres hypogées, comme on les appelle, qui ont été révélées en lien avec cette première trouvaille. On part aujourd'hui à la découverte de l'âge du bronze dans la région du Levant et on descend le royaume des ombres de Byblos. On descend dans le royaume des ombres de Byblos, bien sûr. Et pour nous servir de guide dans ce site impressionnant, nous avons le plaisir d'être en ligne depuis le Liban avec Tania Zaven. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, directrice du site de Byblos à la Direction Générale des Antiquités du Liban. Et vous êtes par ailleurs directrice des fouilles des hypogées à Byblos. Et nous sommes en studio avec Julien Chanteau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue au département des Antiquités Orientales du Musée du Louvre et directeur du programme de recherche Byblos Hypogeum. Vous avez joué un rôle premier dans cette découverte des nécropoles et vous allez nous expliquer comment vous avez fait cette découverte. Mais avant cela, Tania Zaven, j'aimerais que vous nous présentiez ce site très emblématique du Liban, Byblos. Est-ce que vous pourriez déjà nous décrire le paysage où se situe Byblos et quel est l'environnement de ce site sur un promontoire ?
Alors, Byblos est situé 40 km au nord de Beyrouth. Il est sur la Méditerranée. C'est un promontoire qui a été habitué à habiter continuellement durant 9000 ans. Et il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984. Il a été continuellement fouillé. Et les plus grandes découvertes de ce site sont c'est le sarcophage d'Ariram qui a été découvert en 1922. Là, sur ce sarcophage, on a la plus longue inscription compréhensible en langue phénicienne. Et le phénicien, c'est l'origine de la langue grecque. Et il y avait sur ce sarcophage 19 des 22 lettres de l'alphabet phénicien. Et puis, comme cette ville a été continuellement habitée depuis 9000 ans, on a tous les vestiges de toutes les périodes.
C'est comme
l'histoire du Liban dans un tout petit site.
Tania Zaven, oui, c'est ce qui fait de ce site de Byblos une espèce de rêve pour les archéologues, parce qu'il y a toutes les époques, finalement, de la Méditerranée qui sont représentées sur ce site. Et ça, c'est une immense chance, une immense richesse pour vous qui travaillez là-bas.
Tout à fait. Quand on se promène sur le site archéologique, on a des vestiges de toutes les périodes. C'est compliqué pour le visiteur qui n'a pas de guide, mais on a des panneaux explicatifs et on a. C'est comme vraiment l'histoire du Liban. C'est très riche et là maintenant, les fouilles ne sont pas arrêtées. Les fouilles de la ville urbaine, lorsqu'on a des travaux d'infrastructure ou des permis de construction, nous, en tant que Direction générale des Antiquités, on a le devoir de faire les fouilles préventives, et c'est ce qu'on est en train de faire, et de découvrir la ville antique de la période romano-byzantine, qui est un peu plus loin de la ville de l'âge de bronze, qui est située sur le promontoire.
Oui, le promontoire, donc on l'a dit, est en surplomb, comme son nom l'indique, de la ville moderne, et c'est ce que vous le disiez à l'instant, Tania Zaven, c'est pas forcément simple de faire des fouilles dans cet endroit, puisqu'il y a la ville moderne et ces immeubles modernes qui sont construits dessus, donc on peut faire des fouilles plus ponctuellement, des fouilles préventives, donc quand il y a des travaux de construction ou de réaménagement, on peut pas descendre très très profond, si j'ai bien compris, on va pas trop au-delà de l'époque byzantine, on va se concentrer, nous, Julien Chanteau, sur l'âge du bronze, qui est quand même une période assez riche pour la ville de Byblos. Est-ce qu'on peut expliquer à partir des fouilles qu'on a réalisées à Byblos depuis 160 ans avec Renan, avec Maurice Dunant, avec d'autres archéologues là-bas, ce qu'on sait de cette période entre le 3e et le 2e millénaire?
Oui, alors... Effectivement, le site est exploré depuis 1860, hein, depuis les premiers travaux, les premiers sondages implantés par Ernest Renan dans le cadre de sa mission de Phénicie. Et le promontoire, donc en fait, on connaît principalement le promontoire, comme vous le disiez à l'instant. Tout ce qui est autour du promontoire est aujourd'hui sous les souks et sous la ville moderne, donc est plus difficilement accessible pour des explorations archéologiques. En revanche, le promontoire est très bien connu. Pour l'âge du bronze, on y a trouvé un palais, des temples, toute l'acropole en réalité, puisque le promontoire correspond à l'acropole de la ville, également donc des habitations, mais pour les élites urbaines, les rues, les places, le rempart. Donc on a vraiment une très bonne connaissance de cette acropole pour l'âge du bronze, mais malheureusement pas de la ville basse, qui accueillait pourtant une partie essentielle de la population et surtout les fameux ports, et notamment le port antique, donc le port de commerce qui a fait la prospérité grâce aux échanges du royaume de Byblos.
Tania Zaven, Julien Chanteau parle des échanges, c'est capital pour comprendre l'histoire, la culture, l'influence, les influences extérieures sur Byblos. Parlez-nous de ce rôle des échanges dans la constitution d'une culture à Byblos à cet âge du bronze.
Byblos était comme une plaque tournante. C'était déjà un port qui était au début un port de pêche durant la période néolithique, mais il va devenir un port majeur pour l'exportation du bois de cèdre et de toutes les autres essences de bois. Mais c'était surtout le bois de cèdre qui va faire la grandeur de cette ville. Parce qu'au fait, Byblos est juste derrière Byblos, on a la montagne, et la montagne était couverte de cèdres. Et le cèdre était utilisé pour l'embaumement et pour la momification des pharaons. C'est depuis vraiment l'âge du bronze ancien que Byblos va commencer à prospérer, surtout avec le commerce avec l'Égypte. Le cèdre est utilisé pour la construction même des pyramides, les chambres funéraires des pyramides. Comme c'est le cas du temple de la pyramide de Bachour, oui. Mm-hmm. Et puis il y a les barques sacrées, il y a les toits des palais et des temples, et même des meubles qui sont les meubles de luxe. Alors le cèdre va jouer un rôle très important avec l'économie de la ville. Et pas seulement l'économie, car on sait qu'il y a une relation culturelle entre Byblos et l'Égypte, et aussi l'Europe et la Mésopotamie, grâce à l'exportation du bois de cèdre.
Mmh. Et ça se ressent ça jusque dans
et les autres produits.
Et ça se ressent jusque dans la culture matérielle, bien sûr. Julien Chanteau, on retrouve finalement Byblos, c'est une ville un peu d'inspiration, très très imprégnée par la culture égyptienne, et ça se retrouve dans les objets qu'on a trouvés avant ces objets-là qu'on a trouvés récemment.
Mmh, absolument, oui. Ces échanges donc internationaux avec l'Égypte pharaonique vont à la fois enrichir le royaume de Byblos, mais vont également générer une espèce de fusion culturelle qui va s'opérer sur ce site. Et on retrouve alors à la fois dans les croyances, par exemple dans les temples, il y a un temple assez célèbre à Byblos qui s'appelle le temple aux obélisques, que les archéologues ont appelé le temple aux obélisques. Et on retrouve donc dans ce sanctuaire à la fois un culte rendu à des pierres dressées, donc des sikanatoum, des bétiles si vous voulez, mais également à des obélisques. On a retrouvé des obélisques, dont un obélisque gravé au nom d'Abichemou, du roi Abichemou. Et on retrouve également cette fusion culturelle dans des objets, donc à la fois dans des croyances, dans des pratiques culturelles, rituelles, mais également dans des objets de la vie quotidienne, puisque dans la poterie, par exemple, dans la vaisselle, eh bien, pour, par exemple, des bols hémisphériques ou certains types de plats, sont en réalité des productions locales, mais qui reprennent des formes issues du répertoire de la céramique égyptienne.
Une copie, tout simplement.
Absolument.
Une inspiration. Alors, vous parlez de temples aux obélisques. Il y a plusieurs temples sur le promontoire de Byblos. J'aimerais qu'on comprenne, parce que ça va avoir son importance, comment tous ces éléments d'urbanisme s'organisent sur le promontoire. Et on va le voir que ça vous a mis, vous, sur une autre piste il y a quelques années.
Alors, il faut imaginer ce promontoire qui était dominé par le palais royal, hein, qui se trouvait au point altimétrique le plus haut du site. Et puis, au centre donc du promontoire, il y a une source, en fait un puits, mais qui était une source sacrée. Et l'ensemble de l'organisation de l'acropole va se faire autour de ce centre, de manière à la fois rayonnante et concentrique. Donc, le réseau viaire s'organise autour de ce puits sacré.
Il aspire vraiment quasiment tous les faisceaux de cette ville.
Absolument. Si vous regardez une vue aérienne du plan de l'acropole, vous verrez effectivement depuis ce centre, depuis ce cœur de la ville, une grande partie des rues donc rayonnées, et également d'autres rues qui sont concentriques, donc qui se développent autour du puits sous forme circulaire. À côté de ce puits, donc, vous trouverez une place publique, une grande place qui permet des rassemblements collectifs. Et autour donc de cet ensemble puits plus place publique, vous aurez les principaux temples de la cité. Le temple de la Baal Adgoubal, bien sûr, qui était la divinité Poliade, hein, la divinité principale de Byblos. Et puisqu'on parlait à l'instant de l'influence de la civilisation égyptienne, eh bien, la Dame de Byblos, alors nous, on a le sanctuaire au centre de Paris, c'est Notre-Dame de Paris. À Byblos, c'était Notre-Dame de Byblos, si vous voulez. Mais en tout cas, cette divinité donc principale de Byblos était représentée sous les traits de la déesse Hathor, donc qui était une divinité égyptienne, hein, avec cette coiffe, avec ce disque solaire flanqué de cornes de vache. Donc jusque vraiment dans les cultes principaux de la cité, on retrouve cette influence égyptienne. Et puis, à côté de ce temple de la Baal Adgoubal, vous aurez un autre sanctuaire, l'enceinte sacrée, qui était associée à cette source. Également le temple à escalier, et puis ce temple, ce fameux temple aux obélisques, qui présente lui une particularité, c'est que si tous les sanctuaires de la ville sont orientés en direction du centre, ce qui est normal quand vous êtes sur cette place publique, depuis cette place publique centrale, vous vous rendez et vous montez aux différents temples, eh bien le temple aux obélisques, lui, on pourrait dire, son accès principal tourne le dos à la place publique, un peu comme un tournesol hein, qui tournerait le dos au soleil, comme ça, et il est en revanche orienté en direction du sud, c'est-à-dire en direction d'un passage que Maurice Dunant avait interprété comme une poterne, c'est-à-dire une petite porte, un dispositif militaire qui permettrait, en cas d'assaut guerrier, à la population ou à des soldats de prendre à revers les éventuels assaillants.
Et c'est là, roulement de tambour, bien sûr, qu'intervient la découverte récente. Puisque ce temple, donc, n'est pas orienté comme les autres, vous, ça vous a fait vous dire, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche, il faut essayer de comprendre, alors qu'on pensait avoir quasiment tout découvert sur le site de Byblos, il faut comprendre cette anomalie a priori. Qu'est-ce qui vous a mis, vous, sur cette piste, hormis cette orientation-là? Et comment vous avez, un peu à la façon de Thésée avec le fil d'Ariane, remonté le fil jusqu'à ces nécropoles?
Alors, à l'origine, en fait, il y a un programme de recherche qui existe toujours, hein, qui s'appelle Byblos et la mer, co-dirigé par Martine Francis Alouche et Nicolas Grimal. Et ce programme, donc, comme son nom l'indique, a vocation à étudier la problématique maritime, donc la relation entre le site de Byblos et la mer. Et notamment, dans ce programme qui est particulièrement riche, il y avait l'un des aspects, c'était d'identifier l'emplacement du port antique, qui n'était pas clairement établi. Et donc, grâce à donc, tout ce programme de recherche qui avait été initié jadis par Honor Frost, eh bien, Martine et Nicolas avaient identifié donc l'emplacement du port au piémont sud du site de Byblos, donc au débouché d'une vallée qui s'appelle la vallée de la Kassouba, donc vraiment au pied du promontoire. Et donc c'est là que je suis, on va dire, entré en scène, c'est-à-dire que ils voulaient une partie de leur programme de recherche consistait dans l'étude entre le port, la relation en fait entre le port et l'acropole justement et le promontoire. Et il se trouve que dans mes travaux sur la topographie urbaine de Byblos, plusieurs indices m'avaient fait comprendre que cette fameuse poterne, cette petite porte, était en réalité, donc qui se trouvait au sud, était en réalité une porte urbaine fortifiée, l'un des accès majeurs à l'acropole à l'âge du bronze.
Sachant que les portes étaient à l'époque en plus des endroits de sociabilité importants, c'était des endroits très 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 capitaux.
Voilà, alors ce qui m'a conduit, donc parmi les indices, il y avait l'orientation justement du temple aux obélisques, qui était une anomalie en fait hein, dans l'organisation de l'espace sacré de l'acropole. Il y avait aussi le fait que cette poterne se trouvait au débouché d'une des rues principales de la cité, une rue d'ailleurs qui reliait cette poterne à une autre porte urbaine, le fait que juste à côté de cette pseudo-poterne se trouvait un sanctuaire dans lequel Maurice Dunant, donc au siècle dernier, les archéologues qui ont fouillé Byblos au siècle passé avaient trouvé un alignement de pierres dressées, donc là aussi, très probablement un sanctuaire dédié au culte des ancêtres. Il y avait aussi le fait que l'embrasure de cette poterne était de 2,40 m, c'est-à-dire qu'elle était rigoureusement identique à celle de l'autre porte urbaine principale qui se trouve au nord du site. Donc là, on avait un faisceau de présomption, si vous voulez, un faisceau d'indices qui nous a indiqué que bon, il y avait matière à démontrer cette hypothèse, et c'est pour ça que dans le cadre du programme Byblos et la mer et avec l'accord de la Direction Générale des Antiquités, nous sommes revenus sur le site en 2017, et c'est là que, en nettoyant, donc on a retrouvé hein, la porte, les tours qui protégeaient la porte, un bastion, l'esplanade qui était devant la porte, et c'est au cours donc de ces nettoyages que nous avons retrouvé des puits funéraires qui donnaient accès à des hypogées.
Alors ces hypogées, décrivons-les. Vous, quand vous rentrez pour la première fois avec Tania Zaven dans ces endroits-là, comment ça se présente?
Alors d'abord, il faut imaginer. Déjà, nous savions en fait qu'il y avait des tombes dans ce secteur, mais que toutes les tombes avaient été pillées. En fait, le site était occupé donc de manière continue depuis le néolithique et aussi à la période hellénistique. Et à la période hellénistique, dans cette zone-là, il y avait des maisons qui, dans lesquelles les archéologues ont retrouvé des caves. Et Maurice Dunant, donc, qui dirigeait les fouilles à l'époque, avait compris que ces caves de la période hellénistique étaient en réalité des hypogées, des tombes de l'âge du bronze qui avaient été transformées en celliers à la période hellénistique. Donc nous savions qu'il y avait des tombes de l'âge du bronze. En revanche, ce que nous ignorions totalement, c'était qu'à quelques mètres de ces tombes pillées, il y avait tout un ensemble funéraire qui, lui, était resté miraculeusement intact depuis 4000 ans.
Un ensemble funéraire, un véritable réseau de tombes sur plusieurs niveaux. Tania Zaven, quand vous rentrez dans ces hypogées, qu'est-ce que vous ressentez? Quelles émotions ça provoque? Parce que j'imagine que quand sur un site aussi connu, on découvre quelque chose d'aussi spectaculaire, ça doit être renversant, non?
Mais c'est le mot. Et on était déboussolés et on y rentrait et on, comme si on était en train de découvrir un autre monde. On est rentré dans l'autre partie du site qu'on n'avait jamais découvert. Il y avait un silence très lourd. C'était comme dans les films. Je ne pouvais pas m'exprimer. On était abasourdis. Et on avait des lampes torches et on voyait quelque chose qui était intact. C'était comme si le temps était suspendu durant 4000 ans. Et là, on était en train d'explorer. On avait peur de les déranger à un point où on ne savait plus comment marcher, nous avancer. Parce qu'aussi, c'était très fragile. On n'avait pas encore mis les étés. C'est un endroit assez dangereux. Mais on voulait découvrir, explorer. Et c'était plus fort que nous d'aller un peu plus loin, un peu plus loin. On avait cette appréhension de rentrer, mais on avait aussi on était vraiment sous une... ébloui par cet endroit, par ce silence, par ces jarres qui étaient l'une à côté de l'autre, par ces récipients et par ce silence.
Julien Chanteau, et même...
Julien
Chanteau, même sentiment quand vous rentrez dans ces tombes. Mais là, Tania Zaven parle d'éléments déjà importants, qu'on voit, les grandes jarres, des éléments matériels qui sont là depuis 4000 ans, qui ont par chance résisté aux éboulements. Ça, c'est des choses assez impressionnantes quand on les voit pour la première fois.
Oui, et puis... C'est un rêve d'archéologue, hein. C'est puis même de un rêve d'enfant. Hein. On a tous rêvé quand on était enfant à la caverne d'Ali Baba, à la caverne d'Aladin. Bon, il y a quelque chose effectivement. J'ai pas encore verbalisé. D'ailleurs, c'est une émotion tellement forte que je vous avouerai que j'ai pas encore.
Dans le documentaire de Philippe Araktinji, on sent une euphorie chez vous. Et oui, allez envie, vous avez envie d'en voir plus et vous faufilez dans des brèches et tout le monde vous dit reviens, Julien, reviens. Et puis finalement, vous y allez. Et mais je comprends ce choc que ça représente.
Absolument, oui. Et alors non, une quelque chose qui me revient là puisqu'on en reparle, je crois que c'est évoqué d'ailleurs dans le documentaire, ce qui m'a vraiment tout de suite surpris, c'est que donc on avait eu des lampes torches et le faisceau de la lampe est parti très très loin. Et ça m'a étonné parce que les tombes en fait qui ont été donc que nous connaissions, qui étaient pillées à côté, ne possède qu'une seule chambre funéraire. Il faut imaginer, ce sont des puits funéraires donc creusés dans la roche de plusieurs mètres de profondeur et qui donnent accès à une chambre funéraire. Or là, le fait que le faisceau parte loin, cela indiquait qu'il y avait en fait des tombes qui étaient donc structurées par concaténation linéaire qui enchaînaient en fait un peu à la manière...
Quelle surface ça fait ?
Ça dépend des tombes, c'est très variable. Alors on a trouvé une tombe qui ne dispose que d'une seule chambre funéraire, mais la plus grande que nous connaissons, que nous allons publier d'ailleurs cette année, fait 65 mètres carrés et associe 6 chambres funéraires. C'est la tombe que l'on voit qui est fouillée dans le documentaire. Donc 65 mètres carrés, on est quand même sur des dimensions exceptionnelles pour la période, hein, au Proche-Orient.
Des milliers d'objets, des ossements humains, animaux, Tania Zaven, est-ce qu'on peut faire un descriptif général et rapide, parce que malheureusement on a plus beaucoup de temps, mais un descriptif général de ce qu'on a trouvé dans ces hypogées, dans ces tombes sous Byblos.
Alors, on a trouvé plusieurs hypogées, comme Julien a très bien dit. Les hypogées étaient l'une à côté de l'autre, et c'était au-dessus aussi, sur plusieurs niveaux. Et alors, il y avait quelques hypogées en sandwich. Les objets étaient très variés. Il y a des centaines de céramiques et des céramiques localement fabriquées, mais d'influence égyptienne. Et là, on voit l'influence culturelle entre Byblos et l'Égypte. Et puis, on voit des scarabées. On a découvert des scarabées en stéatite et en améthyste, plusieurs dizaines. Et puis, on a trouvé un pectoral en or qui était, avec les spécialistes, qui avaient décrit que ce pectoral était porté d'habitude par les princesses égyptiennes. Mais cette fois-ci, elle était trouvée à Byblos. C'est comme si il y avait une sorte d'acculturation. Ou bien, ils étaient influencés par cette culture et ils voulaient répéter, ils voulaient imiter à la façon locale ce qu'ils avaient vu ou bien ce qu'ils avaient entendu et ce qu'ils avaient peut-être emprunté ou utilisé en Égypte. C'est un endroit très très riche, mais très très riche aussi archéologiquement, parce que les ossements animaux, il y avait des ossements ou des écailles et des restes de poissons du Nil. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a aussi dans les écrits d'Unamun qui n'est pas de la même période, mais qui date de 2000 avant Jésus-Christ, il parle que il y avait 30 paniers de poissons du Nil qui étaient commandés par le roi Giblite à Byblos. C'est pas seulement des objets, mais c'est aussi de la nourriture qu'il voulait ramener d'Égypte. Et il y avait ossements de plusieurs animaux. Et alors là, il y avait des offrandes, il y avait peut-être un banquet funéraire qui avait eu lieu.
Et aussi peut-être des animaux qui ont été peut-être des animaux qui ont été sacrifiés pour faire leur fonction, pour exercer leur fonction d'animaux psychopompes, d'animaux guides des âmes vers le monde des morts. Julien Chantour, il y a aussi des ossements humains. Il faut dire que les conditions de conservation sont particulières. Il fait très humide dans ces nécropoles, donc c'est des conditions qui sont pas optimale pour tout ce qui est registre fossile. Et il faut compter aussi sur la présence de petits rongeurs assez farceurs qui s'amusent à déplacer un peu aussi des os.
Oui, absolument. Oui, les conditions donc pour la conservation des matières organiques sont effectivement très mauvaises. Mais nous obtenons quand même des résultats. Par exemple, nous avons trouvé donc dans l'ossuaire principal de cette tombe, l'hypogée 5, hein, qui fait 65 mètres carrés, donc l'ossuaire principal qui se trouve au fond de la tombe, eh bien, les ossements d'une trentaine d'individus étaient enfermés dans un coffre en bois et nous avons pu identifier l'essence de ce bois grâce à notre xylologue Victoria Asensi. Et ce bois est... Et du cèdre, donc bon, on s'y attendait un peu, mais ça va mieux en le disant. Effectivement, donc nous avons alors plusieurs perturbations. D'abord, comme le disait Tania, la nécropole présente une caractéristique absolument unique hein, pour l'Égypte et le Proche-Orient pour la période, c'est que les hypogées sont superposés. Ils ne sont pas simplement juxtaposés le long de l'enceinte de l'acropole.
C'est-à-dire que le sol d'un hypogée est le plafond de l'hypogée du dessous.
Exactement. Donc ce qui provoque aussi parfois, dans la mesure où la roche est un calcaire très gréseux, très sableux, des effondrements, donc qui peuvent abîmer les dépôts funéraires et qui nécessitent des dispositifs de protection, d'étayage pour assurer la protection des œuvres et aussi, bien sûr, des chercheurs et des archéologues. Et pour
La question des ossements humains.
Des ossements humains, oui, pardon. Alors là, on a deux types de dépôts funéraires. Nous retrouvons à la fois des dépôts primaires, c'est-à-dire des défunts qui étaient enterrés dans des coffres en bois, en fait, dans des cercueils. Mais manifestement, ce n'était qu'une étape, c'est-à-dire qu'on constate que l'inhumation, l'enterrement est un long processus dans lequel, à un moment donné, après avoir inhumé les défunts, ont rassemblé leurs ossements pour les placer dans des ossuaires. Quant aux offrandes, vous évoquiez les offrandes et les dépôts de faune, donc les dépôts d'animaux, donc une grande variété d'animaux, comme le rappelait Tania. Et puis surtout la grande quantité de céramique, on retrouve des centaines de poteries dans toutes ces tombes. Ces poteries et ces dépôts de faune avaient deux fonctions. Soit il servait en fait dans le cadre de banquets funéraires, puisque c'est les cérémonies d'inhumation, exactement, s'accompagnaient de banquets, de cérémonies funéraires en hommage aux défunts. Et puis pour d'autres dépôts qui sont plus localisés, qui sont associés justement à au corps, aux défunts ou aux ossuaires, et bien là il s'agit d'offrandes, donc de viatiques que l'on déposait en offrande aux défunts pour l'au-delà.
En très très bref, Julien Chanteau, il y a aussi une question, c'est la question de l'emplacement de ces hypogées qui est questionnable, enfin sur lesquelles vous allez travailler, parce que ça c'est maintenant que vous avez fait cette découverte, faut interpréter la découverte.
Oui, absolument. Et c'est aussi pour cet emplacement est essentiel. Donc l'association à la porte urbaine et surtout aussi à l'enceinte, puisque tous les puits funéraires que nous avons trouvés sont tous situés à l'aplomb de l'enceinte, mais côté extramuros. Pour une raison simple, c'est que il y avait un interdit, donc à cette période. Il était interdit d'enterrer des défunts sous le sol sacré de l'acropole. Les seuls qui ont eu ce privilège-là, ce sont les rois, et encore, ils n'ont obtenu ce privilège que 1000 ans après la fondation de la cité. Mais à l'époque de cette nécropole de la porte sud, les tombes devaient nécessairement se situer à l'extérieur de l'enceinte.
Les fouilles de Byblos donc ne sont pas finies, on n'a pas fini d'en savoir sur cette merveilleuse cité libanaise. Une monographie est à paraître concernant cet hypogée 5 et en mars, il y aura, si je ne dis pas de bêtises, une exposition à l'Institut du Monde Arabe intitulée Byblos, ville éternelle.
2026,
mars 2026, puisque la guerre au Liban a ralenti considérablement ses travaux scientifiques. Merci beaucoup à vous, Tania Zaven, Julien Chanteau. Et si vous voulez voir des images, des belles découvertes réalisées à Byblos, allez voir le documentaire d'Arte de Philippe Araktinji, Liban, les secrets du royaume de Byblos. Merci beaucoup. Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.